Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de l'Actu Tech avec ce soir sur le plateau de Tech & Co. Il est là, il est venu et quel plaisir de le retrouver. C'est Jean-Baptiste Kem. Salut Jean-Baptiste.
Bonjour.
Fondateur de Kyber et aussi co-fondateur ou fondateur de VLC. Je ne sais plus si on dit co-fondateur ou fondateur.
On ne dit rien du tout.
On ne dit rien du tout.
Il n'y a pas de fondateur, il n'y a pas de créateur, il y a juste JB.
C'est ça, JB de VLC, voilà. Et tiens, petite info, tu vas revenir dans De quoi je me mail, ça sera en fin de semaine pour nous raconter l'histoire de VLC.
Super, j'ai plein d'anecdotes rigolotes.
Ça va être cool. Et puis bien évidemment, à tes côtés, c'est Pierre Vanier dont c'est le retour. Salut Pierre.
Salut François.
Ravi de te retrouver.
Écoute, merci pour l'invitation.
Tu es le PDG de Flint.
Ouais.
Voilà.
Podcaster de Yapakla Data.
Podcaster de Yapakla Data.
Conférencier IA.
Conférencier IA. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bon cuistot à la maison? Non, pas terrible.
Ouais.
Aussi, ouais. Pas mal aussi, ça vaut le coup. Et Philippe Devos est là aussi. Salut Philippe.
Bonsoir François.
Fondateur de Philios, cofondateur de Wanadoo, expert dans tous ces domaines de la tech et on adore écouter toutes tes analyses sur toute l'actualité tech. Tu viens nous voir régulièrement et c'est cool. On va commencer par Seedance. Est-ce que vous avez testé Seedance avant de diffuser notre petit reportage?
Évidemment.
Ouais.
Moi, c'est quand même mon métier, la vidéo. Donc, en fait, j'ai testé quand même beaucoup de choses. Seedance, c'est la suite de ce qu'on a déjà vu. Les premiers qui avaient fait des trucs rigolos, c'était quand même Runway, qui était une petite start-up qui finalement n'a pas fait grand-chose depuis. Et puis, il y a eu un moment, la claque qui a été Sora, quoi. Et là, on arrive avec Seedance.
Alors, justement, c'est le chinois ByteDance, hein, propriétaire de TikTok, qui provoque un tollé dans l'industrie du cinéma, avec donc son logiciel d'IA Seedance 2.0, qui a déjà été présenté comme l'un des plus avancés du marché, et qui est parvenu à cloner en fait des productions hollywoodiennes. Il y a plein de vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, qui sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Disney et Paramount crient au viol des droits d'auteur. Le sujet préoccupe aussi en France. Erwan Maurice nous raconte tout ça et puis bien évidemment, on évoque Seedance juste après.
Seedance 2.0 agit au plus grand mépris des droits d'auteur. Indignation du lobbyiste qui représente les intérêts de Disney, Universal, Warner ou Netflix. Ces géants de la production protestent contre cette IA chinoise qui a notamment permis d'utiliser les visages de Tom Cruise et de Brad Pitt dans un combat à main nue. Le sujet inquiète jusqu'en France. Entendu à l'Assemblée nationale, des représentants de la production audiovisuelle et du cinéma ont parlé d'une seule voix pour alerter les parlementaires. Ils les appellent à construire sans plus tarder un cadre réglementaire français.
Sur l'IA générative de vidéo, il y a eu un pillage complet des œuvres et le pillage a eu lieu.
Il y a urgence. Le cadre européen ne s'est pour l'instant malheureusement pas montré très favorable ni à la régulation des acteurs ni à la défense du droit d'auteur. Donc il nous paraît aujourd'hui utile d'avancer sur ce point au niveau national.
ByteDance, qui assure respecter les droits de propriété intellectuelle, dit prendre des mesures pour empêcher l'utilisation d'images non autorisées.
Voilà, alors si vous êtes avec nous à la télé, c'est vrai que c'est quand même impressionnant ce combat Brad Pitt-Tom Cruise qui n'a jamais existé, en fait. Mais si on ne nous le dit pas, enfin je ne sais pas, alors peut-être que les vrais experts de l'IA découvriraient quelques, je ne sais pas moi, des artefacts ou des choses qui font qu'on pourrait déceler de l'IA, mais c'est quand même assez impressionnant. Qui commence sur ce sujet? Parce que je crois qu'il y a pas mal de trucs à dire.
Moi ma remarque, c'est Saïton Key, en fait. On a eu le même sujet en fait sur la génération d'images et Ghibli qui s'est plaint après que tout le monde a fait du Ghibli avec ChatGPT. Tu savais que ça allait arriver en vidéo, il y a aucune surprise. La seule surprise, c'est la vitesse à laquelle c'est arrivé. Mais le reste, on le savait. D'ailleurs, tu vois, les premières choses de Stable Diffusion, tu rigolais parce que les doigts, ils étaient pas bons. T'avais 6 doigts. Ouais. Puis très, très vite, ça a été corrigé. Aujourd'hui, t'as des choses comme Flux. C'est assez incroyable. Là, tu as la même chose en vidéo. Les premières vidéos. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que la vidéo que tu es censé afficher, c'est la vidéo de Will Smith qui mange des spaghettis.
Oui.
Et donc, en fait.
Qui est un peu la vidéo étalon.
Et qui est la vidéo étalon de la même
de
façon.
Pendant la
génération de schémas, c'est le pélican qui fait du vélo. Hein, c'est pour tous les LLM, tu les testes en disant dessine-moi en SVG un pélican qui fait les vidéos.
Pourquoi c'est compliqué ça? Un pélican qui fait un vélo? Qui fait du vélo?
Alors, la façon dont on s'est demandé.
Enfin, j'imagine, déjà pour le pélican, c'est pas gagné. Mais
surtout, j'ai un pélican qui fait vidéo,
déjà,
t'as du mal à le faire. Et dans vidéo, c'est Will Smith qui mange des spaghettis, donc c'est assez rigolo. Et tu vois que l'évolution, elle est arrivée très très vite. De toute façon, toutes les IA violent le droit d'auteur. Tous les entraînements ont violé le droit d'auteur. On a commencé avec le texte où ça sortait texto des livres complets. Les images, c'était évidemment du Ghibli. On a tous ressorti. Tu faisais du Tintin, tu faisais du Ghibli. Là, on est en vidéo. Évidemment, ça a été entraîné sur le corpus. Et le corpus, il est globalement fait à base de droit d'auteur. Ce qui est intéressant et que les gens ne voit pas trop, c'est que ce qui a été difficile dans la vidéo, c'est pas trop de générer de la vidéo, mais c'est de générer de la vidéo qui soit constante.
Ouais.
C'est-à-dire que, imagine, je fais une vidéo avec quelqu'un genre François Sorel, et en fait...
Très bon choix déjà.
Très bon choix.
T'es sûr de faire un blockbuster.
Et donc, la vraie question, c'est si je te mets dans une vidéo de 30 secondes ou une minute, à la fin, tu ressembles vraiment à rien, quoi. Parce qu'en fait, il y avait un problème de ce qu'on appelle de stabilité dans le temps.
C'est-à-dire que petit à petit, l'IA générait un autre personnage.
Oui, parce qu'en fait,
c'est ça.
En fait, t'as pas vraiment cette, comme la plupart de ces IA, il faut comprendre, elles ne comprennent pas vraiment le monde, hein, c'est les débats sur les world models. En fait, tu perds la stabilité et tu lui redemandes de refaire une autre scène. Et l'autre scène, en fait, elle a rien à voir. Alors que toi, en fait, si l'acteur, c'est pas le même, ça te choque. Là, on commence. D'ailleurs, même là, dans Seedance, tu vois que les séquences, elles sont pas si longues que ça. Mais elles sont quand même beaucoup plus longues que ce qu'on avait avant. Mais surtout, en fait, tu lui as donné le concept d'accutter et tu lui dis, refais-moi quelque chose à partir.
C'est-à-dire que tout au long de la vidéo, il va rafraîchir et va chercher.
C'est exactement
le visage de Tom Cruise.
Parce qu'en fait, à l'origine, tu vois, les deepfakes, ça marchait, ça a été le premier truc. On pouvait prendre le pape, on pouvait prendre Trump ou Macron et leur faire vraiment n'importe quoi en deepfake. Tu vois, là, il y a même pas de deepfake, c'est-à-dire qu'on n'a même pas eu.
Il y a même pas d'image originale finalement.
Il y a même pas d'image originale. Mais ça veut dire que il y a tout le travail sur ce qu'on appelait les hallucinations, cette fois-ci temporelles, qui a été corrigé par cette version Seedance 2.0. Il y a pas d'étonnement. Quoi que ce soit, on est juste passé, comme d'habitude, du texte à l'image, d'une image à la vidéo, et on continue.
Le seul petit étonnement que tu as souligné, c'est que ça va très très vite. Beaucoup plus vite que prévu peut-être.
Alors exactement, c'est-à-dire que là, tu regardes, et t'as un rendu qui est quand même très réaliste, et surtout, tu as des close-ups sur le visage, tout en ayant un fond qui soit stable. Et ça, c'est vraiment... Alors, le Brad Pitt, je le trouve moins bien, si je peux me permettre, que le Tom Cruise.
Parce que t'es jaloux.
Je suis jaloux, tout à fait, exactement. J'aimerais bien, surtout. Et ils ont 60 ans, quand même. J'aimerais bien ressembler ça à 60 ans.
Ouais, c'est vrai.
Ils ont pas 60 ans. C'est des simulations.
C'est des simulations. OK. Mais tu vois, vraiment, c'est la tête de Tom Cruise qui est très intéressante. Alors que le Brad Pitt, il y a un petit truc un peu gênant. Et le Trump qui fait du basket, t'y crois pas trop.
Déjà, dans la vraie vie, on aurait du mal à y croire.
Ok, ça, je te l'accorde. Mais par contre, moi, j'ai trouvé que toute la scène sur la boxe et le sport, où t'as des mouvements très rapides, où vraiment, tu vois, t'es censé représenter du réel. Alors, la bataille de Tom Cruise, bon, tu sais que c'est de l'IRL. Là, tu dis, oh ouais, ok, ça aurait pu être filmé, quoi.
Pierre?
Moi, au-delà des droits d'auteur, qui est un petit peu la question, un petit peu la question triviale, je trouve deux choses intéressantes. C'est la première, c'est je trouve ça assez cocasse que les Américains crient au loup, alors qu'en fait, les Chinois font très exactement la même stratégie que les Américains dans les startups, qui est « move fast and break things ».
Oui.
Et c'est-à-dire aller vite, casser des choses, et surtout faire fi de tout cadre légal. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA, elle, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Baptiste, ils ont acheté par dizaines de milliers des livres qu'ils ont numérisés. Les droits d'auteur, ça n'a jamais existé, etc. Donc ça, c'est-à-dire qu'ils profitent de la lenteur du régulateur par rapport à la vitesse de développement de ces IA pour, en fait, gagner un temps qui leur permet de faire du cash, de faire un produit, de tester leur marché, etc. La deuxième chose qui est, moi, qui me gêne beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, c'est une petite scène de 20 secondes. Mais on va se retrouver avec la même chose qu'on a sur le texte, sur les musiques, sur le son, pas forcément des deepfakes, mais une slopification d'Internet. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec du contenu généré par IA. Et je suis désolé, quand je vais au cinéma, c'est pour aller voir ce qu'on appelle le 7e art. Et en fait, des vidéos générées par IA, pour moi, c'est pas artistique. Moi, ce que je vais chercher, c'est un vrai acteur en chair et en os qui a vécu sur un plateau, comme toi, là, on est en train de se voir, il se passe quelque chose. T'es en chair et en os. T'es pas une IA.
Ouais, mais regarde,
t'as pas été recréé.
Tu prends Pixar, par exemple, qui est une boîte d'animation 3D qui a fait des films avec des émotions
mais on essaie
qui sont
pas
parfois plus puissantes que les films.
On
n'essaye
pas de simuler
Non.
La réalité. Mais parce que là, on essaye de copier la réalité, de faire un simulacre de réalité par ces avatars qui sont, tu l'as dit tout à l'heure, en fait, on s'y méprend. Brad Pitt et Tom Cruise. Mais en fait, non, c'est des simulations. Et ils ont été entraînés, ils ont piqué les droits d'auteur, et aujourd'hui, on se retrouve avec une simulation de Brad Pitt et une simulation de Tom Cruise qui font une simulation de bataille. Et on appelle ça, c'est une révolution, ça va être le cinéma, etc. Je me pose la question, parce que je vois énormément, de plus en plus, de contenu uniquement généré par IA. Ça ne m'intéresse pas, foncièrement. Quand j'ai un commentaire sur LinkedIn, ce réseau social qui est bourré d'IA, je ne le lis même pas.
Non, mais c'est clair.
Ça ne m'intéresse pas. Donc, si tu veux, je suis pas le porte-parole du syndicat des
non,
artistes.
Non, mais attends, mais ça, c'est un bon remarque. Voilà. Mais ça, c'est une réflexion très, très française. Je suis désolé. Quand t'es
c'est pas de l'art.
Au 24e Marvel. Ouais, mais t'es au 24e Marvel. Excuse-moi, c'est toujours pareil. Je veux dire, oui, quand tu parles de choses qui ont été réfléchies, les Pixar, t'as vraiment une recherche artistique, quelque chose de nouveau.
Le
24e Marvel, excuse-moi.
Non, mais je vais pas.
Et puis il y a tellement plus d'images de synthèse que finalement, ça pourrait être généré par l'IA.
Oui, mais on va pas acheter la médiocrité d'un certain studio d'animation, peut-être temporaire, et qui a eu ses lettres de gloire, etc. Juste pour dire le technosolutionnisme, on va faire des films avec que de l'IA. Parce qu'en fait, on va s'emmerder.
Après, bon, on va donner la parole à Philippe, mais je pense que qu'on peut créer grâce à l'IA. On peut créer grâce à l'IA et on peut démontrer son talent grâce à l'IA. Mais en fait, encore une fois, et on le dit souvent dans Tech & Co, c'est un outil finalement l'intelligence artificielle.
Mais c'est pas ce qu'ils font là.
Celui qui va avoir du talent, qui va savoir raconter des histoires, faire passer des émotions grâce à un outil comme l'IA, à mon avis, ça va arriver.
Oui, mais
un jour ou l'autre, on va tomber dans le panneau.
Il faut un expert.
Mais bien sûr.
Si tu te retrouves avec.
Mais là, pour l'instant, c'est une démo technologique, Pierre.
Ouais,
c'est tout. C'est juste pour dire, voilà, regardez, on met.
Ne défaussons pas notre talent, nos émotions, notre intellect et 150 ans, combien le cinéma, ça fait combien de temps, 100 ans de cinéma et d'art des Frères Lumière, etc. Juste parce qu'à un moment donné, on a des machines super puissantes qu'on fait tourner avec des centrales nucléaires. Tu vas être le juge de paix, Philippe.
Moi, je suis le juge de rien du tout. Non, je suis le juge de rien du tout.
Est-ce que ça t'impressionne déjà, ça? Le fait de voir toutes ces vidéos qu'on diffuse depuis tout à l'heure.
C'est clairement impressionnant. Ce qui est aussi impressionnant et qui pour moi montre la limite pour l'instant en termes de créativité, comme le disait Pierre, c'est que ce que j'ai compris, c'est que le système non seulement est capable de maintenir une cohérence dans la scène sur une durée de 15 secondes, c'est-à-dire trois fois plus que ce que les autres produisent, en tout cas dans leur version gratuite, ça c'est un fait. J'ai compris aussi qu'il y avait une forme de cohérence ou de jugement, je mets les guillemets puisque ce sont des machines éditoriales sur la construction de la scène. Maintenant, si on est capable de générer ce que vous voyez à l'écran avec deux lignes de prompt, je ne vois pas très bien comment la créativité de celui qui veut obtenir un résultat va réussir à s'exprimer. Mais ça, c'est peut-être... ce qui se passe maintenant, comme dans 15 jours, tout aura changé. Dans 15 jours, tout aura changé. Ce que je vois, c'est que ce type d'outil, c'est extraordinaire pour des créateurs isolés, pour des toutes petites structures qui ont besoin aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on consomme de la vidéo, donc qui ont besoin de se faire voir de manière animée, donc de pouvoir créer du contenu. Mais au fond, au-delà du débat artistique, au-delà du débat éventuellement moral... le vrai sujet, c'est la question du droit d'auteur, la question du droit à l'image. C'est toute cette question du droit qui est en train d'être bousculée par la vitesse à laquelle avancent les barbares et les pirates. Et c'est peut-être le moment de réfléchir un peu profondément. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, parce qu'il y a d'autres sujets qui parlent de ça. Le droit à l'image, c'est à la fois le droit au pillage ou pas, c'est le droit à l'anonymat ou à la disparition dans une foule. Enfin, donc on est dans un moment assez spécial. Moi, en réfléchissant à tous les sujets qu'on va aborder au-delà de Seedens, pour moi, on est en train de passer du prompt au pouvoir d'agir, d'une part, c'est-à-dire que l'IA quitte l'écran et commence à fabriquer un tas de choses. On va voir dans quels autres objets elle rentre. Ça, on le verra plus tard, je ne vais pas spoiler. Et puis là, on est en train de rentrer dans le zéro friction, puisque voilà, vous dites un truc, 15 secondes de vidéo s'anime, formidable. Zéro contrôle aussi. Zéro contrôle. Et pour moi, c'est cette question-là qui est la plus intéressante et qui devrait nous faire réfléchir à la fois collectivement et inciter nos régulateurs non pas à réguler plus, mais à réguler mieux, voire à nos constituants de redéfinir un cadre dans lequel on se met d'accord sur ce que c'est qu'une image, ce que c'est qu'une personne, ce que c'est que sa représentation, ce que c'est qu'une manifestation publique, parce que les acteurs qui se plaignent sont des personnes extrêmement exposées par nature. Donc,
c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on apprenne à ne plus croire ce qu'on voit systématiquement.
C'est la disparition du vrai.
Ça, c'est peut-être le plus difficile.
Mais c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, en fait.
Oui, tu as raison.
Je suis désolé.
Mais ça va prendre du temps.
Avec les réseaux sociaux, on a eu trop de gens qui sont mis à croire, et je suis désolé, notamment Facebook, sur Facebook, et finalement la génération un peu plus vieille que moi, qui au début était très contre Internet, et après sont mis à tout boire, comme si c'était l'ORTF, tu vois. Ah, ça a été dit à la télé. Et ah, je l'ai vu sur Facebook. Et là, on arrive au moment où, en fait, tu vas voir vraiment tout et n'importe quoi. Je veux juste mentionner un truc qui s'appelle C2PA, qui est donc une initiative qui permet en fait de signer en tant qu'éditeur une image et une photo, une vidéo pour dire ça correspond bien à ce que j'ai fait. Et donc je pense que tu vas avoir à nouveau des éditeurs à qui on va faire confiance, des journaux en disant ok, ça c'est estampillé, c'est pas un montage, parce qu'aujourd'hui je peux faire un montage.
C'est comme le fact-checking qu'il y avait un moment sur Facebook, je sais pas si vous vous souvenez, avec je crois qu'il y avait Le Monde et pas mal de gros médias comme ça qui vérifiaient l'information qui était sur Facebook en fait. Et puis après et ça s'est arrêté.
On vit un deuxième moment Internet. Souvenez-vous, quand Internet est devenu grand public et quand s'est manifesté grâce au Web 2 la possibilité de tout un chacun d'écrire, c'existait avant déjà avec ce qu'on appelait à l'époque les pages personnelles, mais le simple fait de tendre un micro, de tendre un clavier à tous les utilisateurs, à multiplier les sources d'informations avec évidemment beaucoup de bruit, mais dans le bruit il y avait des pépites. C'est ce qui s'est passé ensuite sur le Web 2 avec les réseaux sociaux, mais avec une difficulté de plus en plus grande à trier le sérieux, le factuel, le fact-checké de tout ce qui relève de ce que Cory Doctorow appelle l'enchitification de l'ensemble du monde dans lequel on est. Ok, là on est en train de franchir le pas de l'image, c'est-à-dire que tout ce que les studios hollywoodiens contrôlaient parce qu'ils étaient peu nombreux à savoir produire des films va devenir accessible à absolument tout le monde. Ça, c'est une réalité nouvelle à laquelle il faut qu'on s'adapte.
Passionnant, en tout cas. Et je vous invite à regarder un petit peu les vidéos qu'il y a sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez bluffant. Autre sujet d'actu que j'aimerais qu'on évoque ensemble, c'est OpenClaw. Vous savez, c'était la grosse actu de ces dernières semaines, cet agent IA qui a été développé par un certain Peter Stenberger, qui permet de piloter votre PC à votre place. En gros, c'est ça. Enfin, tu vas peut-être nous raconter mieux l'histoire, JB, mais il faut savoir que Sam Altman, le patron d'OpenAI, hop là, a fait une petite rafle et s'est payé Peter Stenberger et évidemment OpenClaw avec.
Ça va rester. Ouais. Donc justement, ce qui est intéressant, c'est que...
Raconte-nous.
C'est une IA personnelle, un assistant personnel... pour moi, qui a été un peu survendu par rapport à ses capacités réelles, c'est très rigolo, mais surtout, c'est intégralement open source et ça va rester une fondation. Et donc, ce que Sam Altman achète, c'est vraiment la vision produit de Peter. Ça n'est pas OpenClaw, ça ne l'intéresse pas. Donc ça continue. C'est un projet intégralement open source. Qui est là pour automatiser tes tâches personnelles, s'il y en a que tu puisses automatiser, avec un système de plugin où tout le monde peut aller un peu à la Home Assistant, mais ça reste open source. Il fait une fondation, lui il arrête et lui il se fait embaucher pour un certain nombre de zéros.
Voilà, donc c'est ce que dit Sam Altman. Vous avez le tweet qui s'affiche à l'antenne. Peter Stenberger donc rejoint OpenAI pour piloter le développement de la prochaine génération d'agents personnels, etc., etc. C'est ce que tu disais. Finalement, pertinent de la part d'OpenAI de s'offrir.
Oui, parce qu'en fait, il y a un vrai problème pour OpenAI, c'est de trouver des vrais usages qui font que tout le monde va payer. Et avoir ton assistant personnel qui fait toutes tes tâches pas rigolotes, y compris remplir tes CERFA, ça intéresse du monde, parce que leur problème, c'est qu'il va falloir quand même que tout le monde paye 1000 euros par an à OpenAI. Donc, ils ont un problème produit, et avoir des gens qui sont mis à réfléchir du produit, c'est intéressant.
crois qu'il y a beaucoup de monde qui sont prêts à payer 1000 euros,
non,
à donner 1000 euros par an à OpenAI.
Non, mais d'ailleurs, je suis pas investisseur à OpenAI, tu noteras.
Mais alors, comment ça va marcher finalement? Parce que c'est intéressant ce que tu dis, c'est que cet agent IA va remplir toutes les tâches à faible valeur ajoutée sur notre PC, c'est ça, dans notre quotidien.
Alors, ce qui est rigolo, c'est que d'abord, un, c'est pas le premier.
Non.
Deux, c'est des idées assez vieilles. Il y a plein de gens qui ont fait les choses, mais c'est bien packagé, il a réussi à lancer la communauté, c'est arrivé au bon moment, avec des agents qui étaient avec des LLM qui étaient plutôt bons, et surtout tout un système de plugins où tu vas pouvoir rajouter, et ça qui est très fort, c'est que tu peux rajouter des workflows, mais finalement, c'est ce qu'on a vu un peu en agentique entreprise que tu as en personnel. C'est très cool. Après, je pense que pour beaucoup de gens, il n'y a pas, le besoin est relativement faible, et tu le remarques, hein, tu sais, c'est un peu comme tous tes services de conciergerie, finalement, il n'y a pas tant que ça de gens qui l'utilisent.
Philippe?
Alors, moi, je fais partie de ceux qui, à la fois parce que je ne suis pas arrivé sur l'actu et que je n'ai pas forcément le temps ou la capacité de tout tester, n'ont pas testé OpenClaw, ne l'ont pas installé. Et j'ai compris par la suite que un certain nombre de personnes regrettaient de l'avoir installé, ou en tout cas s'apercevaient un peu trop tard que elles avaient délégué quasiment toute la sécurité de leur machine à OpenClaw. Ça, c'est un point.
Il y a eu pas mal de discussions sur tout ce qui est vie privée, etc., parce que ça siphonne en fait.
Oui, mais même au-delà de la vie privée, c'est-à-dire que tu donnes des droits d'administration ou des droits d'accès à ta machine extrêmement profonds.
Cela dit, le système est obligé s'il veut remplir les tâches que tu lui demandes de faire.
Le même problème avec CloudWork, avec Copilot, qui ont supprimé des dossiers de ta machine aux gens parce qu'il le LLM a pas bien compris. C'est un sujet classique et qui
va être longtemps. Non, mais c'est un premier point. Le deuxième point, je pense que ce qui a fait le succès phénoménal d'OpenClaw sur GitHub. Puisque d'après ce que j'ai compris en préparant l'émission, le truc a été téléchargé 18 fois plus que Kubernetes dans une période de temps très courte. Donc c'est de très loin ce qui a attiré le plus l'attention, et 2 millions d'utilisateurs quotidiens, je crois, un truc comme ça. Les chiffres sont énormes en termes de vitesse d'adoption. Je pense qu'une des raisons du succès, c'est le fait que dans les interfaces qui sont proposées, en tout cas dans ce que j'en ai lu, puisque je ne l'ai pas essayé, il y a le fait de pouvoir lui parler à travers WhatsApp, Telegram, enfin à travers... de pouvoir lui causer à distance. Bon, ok, très bien, ça c'est un truc qui n'est pas encore super facile à implémenter correctement sur une machine. Moi, j'essaie de bricoler un peu, mais on en est loin. Moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un post que j'ai lu ce matin publié par un directeur senior de NVIDIA qui a... jouer avec OpenClaw, qui s'est aperçu qu'il y avait plein de bugs et de choses qui ne convenaient pas, qui du coup, comme c'est open source sur GitHub, a fait un fork, et en fait n'a pas pu maintenir son fork parce que il y a plus de 450 bots qui se sont mis à interagir avec la variante qu'il avait générée. Et ce qu'il montrait dans ce post, et ce à quoi il faisait réfléchir, que je trouve intéressant, c'est que les systèmes aujourd'hui de publication, de maintien de version, alors en langage barbare, de pull request, etc., qu'on trouve sur un ensemble de repositories publics comme GitHub, au passage, je vous rappelle, propriété de Microsoft, ce système-là qui était adapté à du travail collaboratif entre des développeurs humains, manifestement est en train d'être pris de vitesse et s'étouffe.
Oui, par des agents IA.
Sur des agents IA. D'accord. Qui eux-mêmes viennent interagir avec et modifier le développement. Et donc, moi, ça me pose aussi la question de savoir si cette compression du temps, cette réduction de notre attention, cette délégation à des machines, va pas supposer de repenser, et c'est peut-être un des sujets sur lesquels tu travailles d'ailleurs, mais de repenser les infrastructures mêmes de collaboration qui vont mettre de plus en plus en jeu des machines. Je vous rappelle qu'il y a plus de 50% du trafic sur les réseaux sociaux, sur Internet aujourd'hui, texte, audio maintenant, photos et vidéos, qui est généré par des machines et plus par des humains. Donc il est possible qu'une partie de l'infrastructure, au-delà de Moldbook et des agents IA qui s'engueulent et qui se disent « Tiens, il faudrait qu'on invente un langage entre nous que les humains ne comprennent pas, face à tout le monde a fantasmé là-dessus. » Mais au-delà de ça, je pense que l'infrastructure elle-même est en train de vivre un moment critique.
Pierre.
Moi, je pense qu'il a été racheté, pas pour cette raison, je pense qu'il a été racheté pour couper l'herbe sous le pied à la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, il est allé dans tout San Francisco, Peter Steinberger, voir toutes les grosses maisons, Anthropic, OpenAI, etc.
Mark Zuckerberg de Meta était intéressé.
Mais Meta, ils ont déjà racheté Manus, souviens-toi, il y a quelques mois. Donc, ils ont acheté leur petit joujou, entre guillemets, agent, qui est Manus, Acquiring. Et du coup, je pense qu'il a joué la carte du...
Oui, je me le récupère comme ça.
Vous mettez combien ? On parle quand même, Manus a été racheté 2 milliards. On parle de chiffres potentiellement, et qu'il aurait évoqué sur le podcast avec Lex Fridman, de potentiellement 5 milliards pour un truc qui a été créé il y a 6 mois. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'espèce de côté délire stratosphérique. N'oublions pas aussi qu'OpenAI avait lancé un moteur d'agent qui s'appelait Atlas. On n'en entend plus parler. Ils avaient lancé tout un tas d'autres trucs. Atlas, c'était dans le navigateur. Les Chinois commencent aussi à lancer un nouvel agent dans un onglet de ton navigateur. Mmh. Et aujourd'hui, ça pose des questions...
Et Anthropic aussi qui a ça, je crois.
Ouais, ça pose des... Avec Cowork, ça pose des questions de confidentialité, de vie privée. Et comme le rappelait... comment elle s'appelle Whittaker, la patronne de Signal, tous les super systèmes de chiffrage des messages de Signal, par exemple, qui est une messagerie hautement sécurisée, chiffrée de bout en bout, n'ont plus aucune espèce d'importance dans la mesure où vous laissez les clés du camion à un agent dont on ne sait pas comme il a été codé, etc. Moi, quand on m'a dit, t'as installé OpenClaw, ou à l'époque, il avait encore un autre nom, Moldbook, etc., j'ai dit, surtout pas. Vous allez voir, dans 10 jours, ça va être la foire. Et en fait, effectivement, c'est un nid à virus. Il ne faut pas oublier un truc, les gens ont du mal à définir ce qu'est un agent. En fait, c'est assez simple. Un agent, c'est un virus sur lequel tu lui mets un costume propre. D'accord ? Parce qu'en fait, c'est ça. Un agent, c'est un peu un virus. Il a les mêmes fonctionnalités. Donc,
Est-ce qu'on peut...
JB est d'accord ou pas ?
Non, c'est pas un virus, je peux pas dire ça.
Ça n'a pas les mêmes fonctionnalités qu'un virus.
Non, c'est pas un virus. Et c'est juste... Là, il y a un vrai problème de sécurité sur la façon dont a été développé OpenClaw. Ça, c'est clair. Il y a un vrai sujet. Notamment, il s'en est un peu vanté de dire qu'il faisait que écrire du code sans jamais relire.
Vibe coding.
C'est même pas vibe coding. C'est vibe coding débile, c'est-à-dire sans réfléchir. Et c'est pour ça que j'aime bien ce que tu dis, Philippe, là-dessus, c'est que le problème, c'est qu'on est dans une telle accélération, et c'est la même remarque avec Sidens, qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour réfléchir. Effectivement, là, les problèmes sur GitHub, tu as tellement de merge requests partout, en fait, tu es submergé de la même technique que la Trumposphère, là, où ils te donnent tellement de trucs qui devraient te hérisser le poil, qu'en fait, tu sais même plus comment réagir. Et donc, c'est ça. Ce n'est pas un virus, mais c'est vrai que niveau de sécurité, il y a beaucoup de gens, ils se rendent pas compte ce qu'ils ont fait. Et surtout, le gain, il est faible, tu vois, parce que si c'est pour commander tes billets d'avion, franchement, tu fais pas ça assez souvent pour que tu donnes toute ta vie.
Est-ce qu'on peut revenir 2 secondes juste sur le petit débat que vous avez eu sur l'open source ?
Philippe, on n'a plus de temps, c'est ça le problème.
Alors, on fera ça hors antenne, mais un projet open source qui ne survit pas à son fondateur, je ne sais pas ce que peut devenir OpenClaw sans son instigateur. Moi, je pense